Chapitre 2. Premières années à Lisieux. Comme je l'ai dit plus haut, c'est à partir de cette époque de ma vie qu'il me fallut entrer dans la seconde période de mon existence, la plus douloureuse des trois. Surtout depuis l'entrée au Carmel, de celle que j'avais choisie pour ma seconde maman. Cette période s'étend depuis l'âge de 4 ans et demi jusqu'à celui de ma 14e année, époque où je retrouvais mon caractère d'enfant tout en entrant dans le sérieux de la vie. Il faut vous dire, ma mère, qu'à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupe de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères, et je ne retrouvais ma gaieté que dans l'intimité de la famille. Cependant, je continuais à être entourée de la tendresse la plus délicate. Le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà, un amour vraiment maternel. Vous, ma mère, et Marie, n'étiez-vous pas pour moi les mères les plus tendres, les plus désintéressées? Ah, si le bon Dieu n'avait pas prodigué ses bienfaits, ses bienfaisants rayons à sa petite fleur, jamais elle n'aurait pu s'acclimater à la terre. Elle était encore trop faible pour supporter les pluies et les orages. Il lui fallait la chaleur, une douce rosée et des brises printanières. Jamais elle ne manqua de tous ses bienfaits. Jésus les lui fit trouver, même sous la neige de l'épreuve. Je ne ressentis aucun chagrin en quittant Alençon. Les enfants aimaient le changement et ce fut avec plaisir que je vins à Lisieux. Je me souviens du voyage, de l'arrivée le soir chez ma tante. Je vois encore Jeanne et Marie, nous attendons à la porte. J'étais bien heureuse d'avoir des petites cousines si gentilles. Je les aimais beaucoup, ainsi que ma tante et surtout mon oncle. Seulement, il me faisait peur et je n'étais pas à mon aise chez lui comme au Buissonnet. C'est là que ma vie était véritablement heureuse. Dès le matin, vous veniez auprès de moi me demandant si j'avais donné mon cœur au bon Dieu. Ensuite, vous m'habilliez en me parlant de lui, et puis à vos côtés, je faisais ma prière. Après venait la leçon de lecture. Les premiers mots que je pus lire, ce fut celui-ci. « Cieux, ma chère marraine, se chargea des leçons d'écriture, et vous, ma mère, de toutes les autres. » Je n'avais pas une très grande facilité pour apprendre, mais j'avais beaucoup de mémoire. Le catéchisme et surtout l'histoire sainte avaient mes préférences. J'étudie avec joie, mais la grammaire a fait souvent couler mes larmes. Rappelez-vous, le masculin et le féminin. Aussitôt ma classe était finie, je montais au belvédère, portant ma rosette et ma note à papa. Que j'étais heureuse quand je pouvais lui dire, j'ai 5, sans exception. C'est Pauline qui me l'a dit la première. Car lorsque je vous demandais si j'avais 5 sans exception, et que vous me disiez oui, c'était à mes yeux un degré de moins. Vous me donniez aussi des bons points. Quand j'en avais amassé un certain nombre, j'avais une récompense et un jour de congé. Je vous rappelle que ces jours-là me semblaient bien plus longs que les autres. Ce qui vous faisait plaisir, puisque cela montrait que je n'aimais pas rester sans rien faire. Tous les après-midi, j'allais faire une petite promenade avec papa. Nous faisions ensemble notre visite au Saint-Sacrement, visitant chaque jour une nouvelle église. C'est ainsi que j'entrai pour la première fois dans la chapelle du Carmel. Papa me montra la grille du chœur, me disant que cette dernière était des religieuses. J'étais bien loin de me douter que 9 ans plus tard, je serais parmi elles. Après la promenade, pendant laquelle papa m'achetait toujours un petit cadeau d'un ou deux sous, je rentrai à la maison. Alors je faisais mes devoirs, puis tout le reste du temps, je restais associée dans le jardin autour de papa, car je ne savais pas jouer à la poupée. C'était une grande joie pour moi de préparer les tisanes avec des petites graines et des écorces d'arbres que je trouvais par terre. Je les portais ensuite à papa dans une jolie petite tasse. Ce pauvre petit père quittait son ouvrage et puis en souriant, il faisait semblant de boire. Avant de me rendre la tasse, il me demandait comment la dérober, s'il fallait en jeter le contenu. Quelquefois, je disais oui, mais plus souvent, je remportais ma précieuse tisane, voulant la faire servir plusieurs fois. J'aimais à cultiver mes petites fleurs dans les jardins que papa m'avait donnés. Je m'amusais à dresser de petits autels dans l'enfoncement qui se trouvait au milieu dans le mur. Quand j'avais fini, je courais vers papa et, en l'entraînant, je lui disais de bien fermer les yeux et de ne les ouvrir qu'au moment où je lui dirais de le faire. Il faisait tout ce que je voulais et se laissait conduire devant mon petit jardin. Alors je criais « Papa, ouvre les yeux !» Il les ouvrait et s'extasiait pour me faire plaisir, admirant ce que je croyais être un chef-d'œuvre. Je ne finirais pas si je voulais raconter mille petits traits de ce genre qui se pressent en foule dans ma mémoire. Ah, comme je pourrais redire toutes les tendresses que papa prodiguait à sa petite reine. Il est des choses que le cœur sent, mais que la parole et même la pensée ne peuvent arriver à rendre. Ils étaient pour moi de beaux jours où mon roi chéri m'emmenait à la pêche avec lui. J'aimais la campagne, les fleurs, les oiseaux. Quelquefois j'essayais de pêcher avec ma petite ligne, mais je préférais aller m'asseoir seule sur l'herbe fleurie. Alors mes pensées étaient bien profondes et sans savoir ce que c'était que de méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. J'écoutais les bruits lointains, le murmure du vent et même la musique indécise des soldats, dont le son arrivait jusqu'à moi, mélancolisé tout seulement dans mon cœur. La terre me semblait un lieu d'exil et je rêvais le ciel. L'après-midi passait bien vite. Bientôt, il fallait rentrer au Bissonnet. Mais avant de partir, je prenais la collation que j'avais apportée dans mon petit panier. La belle tartine de confiture que vous m'aviez préparée avait changé d'aspect. Au lieu de sa vive couleur, je ne voyais plus qu'une légère teinte rose, toute vieillie et rentrée, alors que la terre me semblait encore plus triste, et je comprenais qu'au ciel seulement la joie serait sans nuage. À propos du nuage, je me souviens qu'un jour, le beau ciel bleu de la campagne s'en couvrit et que bientôt l'orage se mit à gronder. Les éclairs sillonnaient les nuages sombres, et je vis à quelque distance tomber le tonnerre. Loin d'en être effrayé, j'étais ravie. Il me semblait que le bon Dieu était si près de moi. Papa n'était pas tout à fait aussi content que sa petite reine. Non que l'orage lui fit peur, mais l'herbe et les grandes pâquerettes, qui étaient plus hautes que moi, étincelaient de pierres précieuses. Il nous fallait traverser plusieurs prairies avant de trouver une route. Il montait petit père chéri, craignant que les diamants mouillent sa petite fille, la prit malgré son bagage de ligne et l'emporta sur son dos. Pendant les promenades que je faisais avec papa, il aimait à me faire porter l'aumône aux pauvres que nous en rencontrions. Un jour, nous en vîmes un qui se traînait péniblement sur des béquilles. Je m'approchai pour lui donner un sou, mais se trouvant pas assez pauvre pour recevoir l'aumône, il me regarda en souriant tristement et refusa de prendre ce que je lui offris. Je ne puis dire ce qui se passa dans mon cœur. J'aurais voulu le consoler, le soulager. Au lieu de cela, je pensais qu'il lui avoir fait de la peine. Sans doute le pauvre malade devina ma pensée, car je le vis se détourner et me sourire. Papa venait de m'acheter un gâteau. J'avais bien envie de lui donner, mais je n'osais pas. Cependant, je voulais lui donner quelque chose qu'il ne puisse me refuser, car je sentais pour lui une sympathie très grande. Alors, je me rappelais avoir entendu dire que le jour de ma première communion, on obtenait tout ce qu'on me demandait. Cette pensée me consola, et bien que je n'eusse encore que 6 ans, je me dis, je prierai pour mon pauvre, le jour de ma première communion. Je tins ma promesse, 5 ans plus tard, j'espère que le bon Dieu exauça la prière qu'il m'avait inspirée de lui, adressée par un de ses membres souffrants. J'aimais beaucoup le bon Dieu, et je lui donnais bien souvent mon cœur en me servant de la petite formule que maman m'avait apprise. Cependant, un jour, ou plutôt un soir du beau mois de mai, je fis une faute qui vaut bien la peine d'être rapportée. Elle me donna un grand sujet de m'humilier, et je crois en avoir eu la contrition parfaite. Étant trop petite pour aller au mois de Marie, je restais avec Victoire. Je faisais avec elle mes dévotions devant mon petit mois de Marie, que j'arrangeais à ma façon. Tout était si petit, chandeliers, pots de fleurs, que 2 allumettes bougies l'éclairaient parfaitement. Quelquefois, Victoire me faisait la surprise de me donner 2 petits bouts de rat de cave, mais c'était rare. Un soir, tout était prêt pour nous mettre en prière. Je lui dis, Victoire, voulez-vous commencer le souvenez-vous, je vais allumer. Elle fit semblant de commencer, mais elle ne dit rien et me regarda en riant. Moi qui voyais mes précieuses allumettes se consommer rapidement, je la suppliai de faire la prière. Elle continua de se taire. Alors, me levant, je me mis à lui dire bien haut qu'elle était méchante, et sortant de ma douceur habituelle, je frappais du coup de pied de toutes mes forces. Cette pauvre Victoire n'avait plus envie de rire. Elle regarda avec étonnement et me montra du rat de cave qu'elle avait rapporté, après avoir répandu des larmes de colère. Je versai des larmes d'un sincère repentir et dans le ferme propos de ne plus jamais recommencer. Une autre fois, il m'arriva une autre aventure avec Victoire. Mais de celle-ci, je n'eus aucun repentir, car je regardais parfaitement mon calme. Je voulais avoir un encrier qui se trouvait sur la cheminée de la cuisine. Étant trop petite pour le prendre, je demandai bien gentiment à Victoire de me le donner. Mais elle refusa, me disant de monter sur une chaise. Je pris une chaise sans rien dire, mais en pensant qu'elle n'était pas aimable, voulant lui faire sentir, je cherchais dans ma petite tête ce qui m'offensait le plus. Elle m'appelait souvent quand elle était ennuyée de moi, petite mioche, ce qui m'humiliait beaucoup. Alors, avant de sauter au bas de ma chaise, je me détournais avec dignité et je lui dis « Victoire, vous êtes une mioche !» Puis je me sauvai, la laissant méditer la profonde parole que je venais de lui adresser. Le résultat ne se fit pas attendre. Bientôt, je l'entendis qui criait « Mademoiselle Marie, Thérèse, viens de me dire que je suis une mioche !»« Marie, viens me dire, demander pardon. » Mais je le fis sans contrition, trouvant que puisque Victoire n'avait pas voulu allonger son grand bras pour me rendre un petit service, elle méritait le titre de mioche. Cependant, elle m'aimait beaucoup et je l'aimais aussi. Un jour, elle me tira d'un grand péril où j'étais tombée par ma faute. Victoire passait, ayant à côté d'elle un seau avec de l'eau dedans. Moi, je la regardais en me balançant, comme à mon habitude, sur une chaise. Tout à coup, la chaise me manque et je tombe, non pas par terre, mais dans le fond du seau. Mes pieds touchaient la tête et je remplissais le seau comme un petit poulet remplit son œuf. Cette pauvre Victoire me regardait avec une surprise extrême, n'ayant jamais vu pareille chose. J'avais bien envie de sortir au plus vite de mon seau, mais impossible. Ma prison était si juste que je ne pouvais pas faire un mouvement. Avec un peu de peine, elle me sauva de mon grand péril, mais non pas ma robe et tout le reste qu'elle fut obligée de me changer, car j'étais trempée comme une soupe. Une autre fois, je tombais dans la cheminée. Heureusement, le feu n'était pas allumé. Victoire n'eut que le mal de me relever et de me secouer la cendre dont j'étais remplie. C'était le mercredi, alors que vous étiez au champ avec Marie, que toutes ces aventures m'arrivaient. Ce fut aussi un mercredi que M. Dusselier vint pour faire une visite. Victoire lui ayant dit qu'il n'y avait personne à la maison, que la petite Thérèse, il entra dans la cuisine pour me voir et regarda mes devoirs. J'étais bien fière de recevoir mon confesseur, car peu de temps avant, je m'étais confessée pour la première fois. Quel doux souvenir pour moi. « Oh, ma mère chérie, avec quel soin ne m'aviez-vous pas préparé, me disant que cela n'était pas un homme, mais, ô bon Dieu, que j'allais dire mes péchés ?» Je n'étais vraiment bien convaincue. Aussi, je fis ma confession avec un grand esprit de foi. Et même, je vous demandais s'il ne fallait pas dire à Monsieur Dusselier que je l'aimais de tout mon cœur, puisque c'était au bon Dieu que je parlais en sa personne. Bien instruite de tout ce que je vais dire et faire, j'entrai dans le confessionnal et me mis à genoux. Mais, en ouvrant le guichet de Monsieur Dusselier, ne vis personne. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la banquette où on s'appuie sur les mains. Alors il me dit de rester debout. Obéissant aussitôt, je me levai et me tournant juste en face de lui pour bien le voir, je fis ma confession, comme une grande fille. Et je récis sa bénédiction avec une grande dévotion. Car vous m'aviez dit qu'à ce moment, les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. Je me souviens que la première exhortation qui me fut adressée m'invita surtout à la dévotion envers la Sainte Vierge. Elle me promit de redoubler de tendresse pour elle. En sortant du confessionnal, j'étais si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de foi dans mon âme. Depuis, je retournais me confesser à toutes les grandes fêtes. Et c'était une vraie fête pour moi, à chaque fois que j'y allais. Les fêtes. Ah, que ce mot me rappelle de souvenirs. Les fêtes, je les aimais tant. Vous saviez si bien m'expliquer, ma mère chérie, tous les mystères cachés sous chacune d'elles, que c'était vraiment pour moi des jours du ciel. J'aimais surtout les processions du Saint-Sacrement. Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu. Mais avant de les y laisser tomber, je lançais le plus haut que je pouvais et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en voyant mes roses effeuillées toucher le sensoir sacré. Les fêtes. Ah, si les grandes fêtes étaient rares, chaque semaine leur emmenait une bien chère à mon cœur. Le dimanche. Quelle journée que celle du dimanche. C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. D'abord, je restais dans le dodo plus longtemps que les autres jours. Et puis maman Pauline gardait sa petite fille, lui apportant son chocolat dans son dodo. Ensuite, elle l'habillait comme une petite reine. Ma reine venait friser les filleuls, qui n'étaient pas toujours gentils quand on lui tirait les cheveux, mais ensuite elle était bien contente d'aller prendre la main de son roi, qui ce jour-là l'embrassait encore plus tendrement qu'à l'ordinaire. Puis toute la famille partait à la messe. Tout le long du chemin, et même dans l'église, la petite reine à papa lui donnait la main. Sa place était à côté de lui, et quand nous étions obligés de descendre pour le sermon, il fallait trouver encore deux chaises, l'une auprès de l'autre. Ce n'était pas bien facile. Tout le monde avait l'air de trouver cela si gentil de voir un si beau vieillard avec une si petite fille, que les personnes se dérangeaient pour donner leur place. Mon oncle, qui se trouvait dans les bancs des marguilliers, se réjouissait de nous voir arriver. Il disait que j'étais son petit rayon de soleil. Moi, je ne m'inquiétais guère d'être regardée, écoutant bien attentivement les sermons auxquels je ne comprenais pas grand-chose. Le premier que je compris et qui me toucha profondément fut un sermon sur la passion pressé par Monseigneur du Soulier. Et depuis, je compris tous les autres sermons. Quand le prédicateur parlait de Sainte Thérèse, papa se penchait et me disait tout bas « Écoute bien, ma petite reine, on parle de ta sainte patronne. » J'écoutais bien, en effet, mais je regardais papa plus souvent que le prédicateur. Sa belle figure me disait tant de choses. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir. Il semblait déjà ne plus tenir à la terre, tant son âme aimait à se plonger dans les vieilles vérités éternelles. Cependant, sa course était bien loin d'être achevée. De longues années devaient s'écouler avant que le beau ciel souffle à ses yeux ravis et que le Seigneur essuie les larmes de son bon et fidèle serviteur. Mais je reviens à ma journée du dimanche. Cette joyeuse journée, qui passait si rapidement, avait bien sa teinte de mélancolie. Je me souviens que mon bonheur était sans mélange, jusqu'accompli. Pendant cet office, je pensais que le jour du repos allait finir, que le lendemain il faudrait recommencer la vie, travailler, apprendre des leçons, et mon cœur sentait l'exil de la terre. Je soupirais après le repos éternel du ciel, le dimanche sans couchant de la patrie. Il n'est pas jusqu'aux promenades que nous faisions avant de rentrer au Buissonnet qui ne me laissait un sentiment de tristesse dans mon âme. Alors la famille n'était plus au complet, puisque, pour faire plaisir à mon oncle, papa lui laissait le soir de chaque dimanche Marie ou Pauline. Seulement, j'étais bien contente quand je restais aussi. J'aimais mieux cela que d'être invitée toute seule, parce qu'on faisait moins attention à moi. Mon plus grand plaisir était d'écouter tout ce que mon oncle disait. Mais je n'aimais pas qu'il m'interroge, et j'avais bien peur quand il me mettait sur un seul de ses genoux en chantant Barbe Bleue d'une voix formidable. C'était avec plaisir que je voyais papa venir nous chercher. En revenant, je regardais les étoiles qui scintillaient doucement, et cette vue me ravissait. Il y avait surtout un groupe de perles d'or, que je remarquais avec joie, trouvant qu'il avait la forme d'un thé. Je le faisais voir à papa en lui disant que mon nom était inscrit dans le ciel, et plus ne voulant rien voir de la vilaine terre, je lui demandais de me conduire alors, sans regarder où je posais les pieds. Je mettais ma petite tête bien dans l'air, ne me lassant pas de contempler l'azur étoilé. Que pourrais-je dire des veillées d'hiver, surtout celles de dimanche, à qui il m'était doux, après la partie de Damier, de m'asseoir avec Céline sur les genoux de papa. De sa belle voix, il chantait des airs remplissant l'âme des pensées profondes. Ou bien, nous berçant doucement, il récitait des poésies empreintes de vérités éternelles. Ensuite, nous montions pour faire la prière en commun et la petite reine était toute seule, auprès de son roi, n'ayant qu'à le regarder pour savoir comment prient les saints. À la fin, nous venions, toutes par rang d'âge, dire bonsoir à papa et recevoir un baiser. La reine venait naturellement la dernière. Le roi, pour l'embrasser, la prenait par les coudes et celle-ci s'écrit bien haut. « Bonsoir, papa. Bonne nuit. Dors bien. » C'était tous les soirs la même répétition. Ensuite, ma petite maman me prenait entre ses bras et m'emportait dans le lit de Céline. Alors je disais « Pauline, est-ce que j'ai bien été mignonne aujourd'hui? Est-ce que les petits anges vont voler autour de moi ?» Toujours la réponse était oui, autrement j'aurais passé la nuit tout entière à pleurer. Après m'avoir embrassée, ainsi que ma chère marraine, Pauline redescendait et la pauvre petite Thérèse restait toute seule dans l'obscurité. Elle avait beau se représenter, les petits anges volant autour d'elle, la frayeur la gagnait aussi bientôt. Les ténèbres lui faisaient peur, car elle ne voyait pas de son lit les étoiles qui scintillaient doucement. Je regarde comme une vraie grâce d'avoir été habituée par vous, ma mère chérie, à surmonter mes frayeurs. Parfois, vous m'envoyez seule le soir chercher un objet dans une chambre éloignée. Si je n'avais pas été si bien dirigée, je serais devenue très peureuse. Au lieu que maintenant, je suis vraiment difficile à effectuer.